Voilà, on est toujours sur Fréquence Paris Pluriel, l'émission Les Oreilles Loin du Front. Alors ce soir, on reçoit, pour notre émission, on a décidé d'appeler ça Une autre vision du Liban est possible. Et on reçoit Alain et Waoub. Alain qui est militant du collectif pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah, et Waoub qui est membre militante de l'Union des jeunes progressistes arabes. On vous a fait venir parce qu'on voudrait un petit peu comprendre et donner un petit peu une autre version de tout ce qu'on a pu entendre cet été, puisque durant 33 jours, Israël a fait la guerre au Liban, a fait la guerre au Hezbollah, en tout cas au peuple libanais. Et voilà, alors comment on en est arrivé là? Qu'est-ce qu'il y a comme situation qui fait que Israël s'en est pris à son pays voisin? Waoub.
Voilà, mais c'est effectivement très très intéressant d'avoir essayé d'ouvrir un peu les horizons par rapport à cette question. Mais la problématique est très complexe parce qu'elle remonte très loin dans l'histoire et dans l'inconscient des gens qui ne se rappellent plus. Donc le problème de la guerre et de l'attaque israélienne au Liban qui a eu lieu il y a quelques semaines est tout à fait relié aux attaques israéliennes régulières contre les peuples de la région, contre le Liban aussi. Et c'est pas quelque chose de nouveau, dans le sens où régulièrement, sous prétexte de sécurité ou sous prétexte qui sont des prétextes assez fallacieux, Israël s'en est toujours pris aux populations essentiellement palestiniennes, bien sûr. Mais si on parle du Liban, les attaques contre le Liban ne datent pas d'hier. Donc Israël a un projet très clair au Liban qui est de rendre cette terre politiquement et militairement totalement inactive, puisqu'elle est située à son nord, puisqu'il y a des populations palestiniennes qui l'ont historiquement prise aussi comme base d'action il y a quelques années et aujourd'hui qui y habitent, et qu'il y a des forces politiques qui deviennent de plus en plus importantes sur place. Qui récuse les pleins pouvoirs de l'État sioniste dans la région. Et donc voilà, donc c'est simplement pour remettre en perspective historique et pour ne pas se dire que c'est nouveau. Maintenant, cette volonté israélienne a été utilisée dans un projet qui est beaucoup plus grand, qui est lui nouveau, qui est le projet du Grand Moyen-Orient, qui a été inventé par Bush et ses conseillers, et qui consiste en un remodelage de la région moyen-orientale, en ce compris le Liban, mais aussi l'Irak, la Syrie, les territoires palestiniens, avec un projet de 1, pour garantir la sécurité de l'État israélien, et de deux, pour aussi pouvoir contrôler les richesses pétrolières de certains États dans la région, et 3, géopolitiquement, pour rendre la région beaucoup plus maniable pour les projets impérialistes et pour la découper selon des découpages confessionnels plutôt que des découpages, ne parlons pas de découpage, mais selon plutôt la volonté des peuples de se libérer d'un joug particulier impérialiste ou sioniste.
Alors, on a entendu qu'on avait affaire à une guerre de l'armée israélienne contre le Hezbollah. Est-ce que c'est si simple que ça? Et puis plus largement, qu'est-ce que le Hezbollah? Comment est-ce qu'on peut qualifier cette organisation aujourd'hui? Est-ce qu'il s'agit... Alain.
Au nom du collectif... pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah, nous sommes allés au Liban quelques semaines avant l'intervention israélienne. On est allés avec quelques-uns, Waoub, moi et 3 autres copains. Et donc, ça ne faisait absolument pas l'ombre d'un doute pour quiconque on interrogeait qu'il allait y avoir une confrontation. Une confrontation avec Israël ou, ce qui reste toujours tout à fait possible... un redémarrage des luttes intercommunautaires et éventuellement d'une guerre civile, qui est vraiment le danger le plus évident auquel il faut se préparer dans les jours et les semaines qui viennent. Je ne sais pas si vous avez vu le catastrophisme dont fait preuve un Villepin, par exemple, qui est au Sénat hier, est intervenu dans la presse libanaise, on en parle aujourd'hui, en disant que tout pouvait recommencer du jour au lendemain. On a vu aussi... Aznar et Chirac en grande discussion, mais qui ont été prises par un micro planqué, et qui disaient le Hezbollah, il en a pris un petit coup, mais pas beaucoup, mais dans quelques mois, ça va redémarrer, on a vraiment très peu de temps. Ce qui veut dire que là, aujourd'hui, on voit que tout le monde se hâte pour essayer de faire en sorte que la FINUL joue un rôle complètement dissuasif par rapport au Hezbollah et ferme complètement les choses. On voit par exemple que Annan, alors qu'au départ, il y a encore quelques semaines, on disait que les forces de la FINUL, elles étaient là pour essayer de temporiser, d'avoir un rôle plutôt dissuasif qu'offensif. On parle maintenant de déploiement de milliers d'hommes le long de la frontière syrienne, hein, ce qui est vraiment un acte délibéré d'agression et de provocation vis-à-vis de la Syrie. On parle aussi de mettre 2000 hommes au niveau de vaisseaux qui seraient au large des côtes. Là, véritablement, il y a une volonté. Et on reparle maintenant du désarmement du Hezbollah. Alors, le Hezbollah, quand même, il faudrait tirer au clair un peu un certain nombre d'idées reçues qui existent ici sur le Hezbollah. On dirait que voilà, c'est une secte religieuse qui, comme ça, du jour au lendemain, par fanatisme, aurait réussi à conquérir une majorité de la population du sud Liban. C'est complètement erroné. C'est-à-dire que le Hezbollah, il a fait, entre autres, ses preuves dans la société libanaise sur le rôle décisif qu'il a eu dans la lutte pour jeter les Israéliens du pays. C'est-à-dire que c'est là, on assiste à un deuxième round, mais le premier round, il avait eu lieu il y a une quinzaine d'années. Et au sud Liban, bon, le Hezbollah avait été déjà en mesure de pourrir suffisamment la situation des Israéliens par son courage militaire, par l'appui incontestable de toute la population et de toutes les forces politiques confondues du sud Liban. Il avait réussi à tenir en échec Israël. Une deuxième fois là, malgré la formidable armada qui s'est déployée pendant un mois, malgré les centaines de milliers de tonnes de bombes qui ont été déversées sur le sud Liban. Eh bien, aujourd'hui, le grand vainqueur politiquement de cet affrontement, c'est le Hezbollah. Ça reste le Hezbollah.
Mais alors, est-ce que c'est une bonne chose ? Enfin, parce que je crois vous savoir communiste et laïque. Est-ce que c'est une bonne chose qu'un mouvement ? Est-ce que c'est des camarades, tout court ?
Bon, on ne va pas dire que c'est des camarades. Ça, c'est aller un peu loin. Parce que le Hezbollah, en tant que parti politique, en fait, c'est la simplification ne nous amène pas à comprendre vraiment la situation. Le Hezbollah est un parti politique, est une organisation qui est organisée sous forme militaire, mais aussi un parti politique. Donc, la forme militaire du Hezbollah, donc les centaines et les milliers de gens qui sont engagés sous la bannière du Hezbollah et qui effectivement sur le terrain se battent contre l'agression sioniste, c'est des gens qui peuvent être musulmans, qui peuvent ne pas être musulmans, c'est des gens qui résistent. Et manifestement, ces dernières années, le Hezbollah a les moyens de leur donner des armes, a les moyens de les encadrer et de les entraîner. Ce qui est une bonne chose pour la résistance en général. C'est pas spécialement pour un projet islamiste ou quoi que ce soit, c'est la résistance vis-à-vis d'un agresseur sioniste. Donc a priori, en tant que laïque et communiste, on ne peut qu'être content qu'il y ait une résistance qui existe sur le terrain. Parce que l'agression israélienne, il ne faut pas oublier que même après le retrait israélien 2000 des terres libanaises, l'agression israélienne militaire a été continue. C'est-à-dire que en moyenne, chaque semaine, il y a eu quand même des survols de l'espace aérien libanais. Il y a eu plusieurs fois et à plusieurs reprises des attaques contre les centrales électriques. Donc il y a quelque chose là quand même qui n'a jamais été réglé. Donc on est tout à fait heureux que la résistance sur le terrain existe. Là où effectivement il faut être très prudent, et c'est ça qui est très difficile à manier quand on est militant sur le terrain, c'est quant au Hezbollah comme parti politique, les dirigeants du Hezbollah, les cadres du Hezbollah, bon, c'est un parti comme un autre qui peut avoir des objectifs politiques ou tout ce que l'on veut qui lui sont propres. Mais on ne parle pas des militants du Hezbollah et des résistants qui, sous la bannière du Hezbollah, se battent de la même manière que l'on parle du Hezbollah en tant que parti politique. Aujourd'hui, le Hezbollah, fort de sa victoire militaire sur le terrain, agit effectivement comme un parti politique, comme n'importe quel parti politique le ferait. Et il n'agit pas, il n'a pas in fine un projet communiste ou laïque. Il est là aujourd'hui, après sa victoire militaire, en contrepoids à des forces qui travaillent avec l'impérialisme américain. Donc c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que sur le terrain, les militants communistes ou les résistants en général, la résistance libanaise et palestinienne, au Liban, date de 82, je parle du Liban, hein, date de 82, c'est là où tout le monde s'est mis ensemble pour résister contre l'agression israélienne. Que ce soit des communistes, que ce soit des nationalistes arabes, que ce soit aussi le Hezbollah qui a émergé en 82, donc dans la résistance, pratiquement sur le terrain. Tout le monde était ensemble pour un même projet. Ce projet, on le continue aujourd'hui. C'est ça qu'il faut faire comprendre. C'est que la résistance, elle n'est pas terminée. Et que s'il y a aujourd'hui quelqu'un qui a plus d'argent pour financer les gens qui se battent, mais c'est tant mieux. Voilà. Et donc, c'est aussi prosaïque que ça, c'est aussi pratique que ça. Les gens au Liban ne demandent que ça, que finalement, leur volonté de ne plus être agressés par un État sioniste, leur volonté que la région et leur... On dirait, nous, en tant que communistes, que les Palestiniens, qui sont quasi des concitoyens, qui sont leurs frères, qui sont leurs compagnons d'armes, et aussi une justice qui puisse aussi pouvoir être atteinte par eux aussi. Donc, il y a toute cette problématique-là qu'on ne met pas en avant, tout en stigmatisant le Hezbollah en tant que parti politique, ce qui n'est pas le problème aujourd'hui. C'est pas la question qui est posée.
Guillaume.
Ouais, j'aimerais quand même revenir sur les motivations de l'agression israélienne cet été, et notamment sur le fait que vous développez l'idée que ça s'inscrirait dans le schéma d'une refondation du grand Moyen-Orient voulu par Bush. En fait, dans mon esprit, enfin avant que ça le conflit débute, l'image que j'avais du Liban, c'était un pays dont à la tête se trouvait une bourgeoisie très occidentale, très très riche, très capable, et qui d'une certaine façon mener une position de classe vis-à-vis du reste de la population, et d'une certaine façon ça correspondait tout à fait aux intérêts que pouvait envisager Israël ou les États-Unis par rapport à ce qu'ils entendent voir du Liban. Alors à ce moment-là, ce que je n'arrive pas à saisir, c'est qu'est-ce qui s'est passé pour que soudainement, à la suite, bon, on connaît les enlèvements des soldats, mais enfin c'est assez bénin comme situation. Qu'est-ce qu'il y a derrière qu'est-ce que visait en fait précisément Israël, se débarrasser du gouvernement libanais, ce qui me paraît étrange.
Si on fait l'analogie entre la première invasion israélienne et la deuxième. Il y a une grosse différence. À la première agression israélienne, la bourgeoisie s'était rangée en fait massivement dans le camp des collaborateurs, à savoir qu'ils avaient même mis à la disposition d'Israël l'armée du Liban Sud, qui était véritablement des supplétifs armés qui étaient là pour arrêter les résistants, pour mener la politique israélienne au sud du Liban. Or là, ils n'ont pas été capables de débaucher, pendant toute la période de l'agression israélienne, de débaucher qui que ce soit dans les couches dirigeantes. Par contre, les choses sont un petit peu plus compliquées maintenant. C'est-à-dire qu'on voit maintenant, d'abord avant, vers le mois d'avril-mai, il y avait déjà une crise très importante entre les différentes, entre les différents partis politiques. Il y avait même des insultes qui allaient, des noms d'oiseaux qui passaient entre le Premier ministre Signora, Michel Aoun ou le Hezbollah. Toujours à travers les termes de cette résolution 1559, où chacun mettait un contenu complètement différent, une situation économique catastrophique avec une inflation extrêmement importante et une paupérisation de la population qui atteignait des degrés fantastiques. Hein. On avait rencontré des militants syndicalistes qui nous avaient décrit, juste avant l'agression israélienne, une situation absolument catastrophique. Donc voilà, on en était là. Donc les Israéliens ont tapé tellement fort, de façon complètement indistincte, c'est-à-dire qu'ils ont tapé le sud Liban, mais ils ont tapé aussi des villages chrétiens, hein, sans rien. Ils ont assassiné, à qui mieux, des populations civiles en balançant des bombes à fragmentation, des bombes à retardement qui continueront à faire encore des dégâts pendant des années. Ils ont rendu irréversible cette situation-là. Ils ont créé une marée noire fantastique, encore plus importante que celle créée par l'Erika. Ils se sont véritablement mis à dos l'ensemble de la population israélienne. C'est-à-dire que ça devenait légitime à ce moment-là qu'il faille tout à fait résister collectivement, toute communauté confondue, contre cet agresseur barbare.
Ouais, mais ce que je comprends pas, c'est... en 2000, ils évacuent le Sud. Apparemment, la situation était relativement stable. Les rapports... voilà, c'est ça qu'on ne perçoit pas peut-être en France, c'est quel était l'état des rapports de force.
Mais il y a eu beaucoup de choses très importantes qui se sont passées dans la région, et le problème qui est posé au Liban ne peut pas être dissocié des problèmes régionaux. C'est impossible, que ce soit problème palestinien, que ce soit problème irakien, que ce soit de l'agression diplomatique contre la Syrie. Tout ça, ça fait partie du même problème général, global. Donc, dans la région, depuis le retrait israélien ou depuis tout ce qui s'est passé dans les territoires palestiniens, à savoir les pseudo-accords de paix, les nanana, nanana, etc., il y a eu quelque chose de très important, à savoir l'invasion de l'Irak, donc le fait de déclarer publiquement le projet de Grand Moyen-Orient, donc le remodelage de la région. Et deux, au Liban en particulier, il y a eu l'assassinat d'un premier ministre très pro-occidental, qui a mené la reconstruction du pays après la fin de la guerre de façon à justement uniquement servir les intérêts de la bourgeoisie comme comprador du pays, mettant vraiment à sac et à sec toutes les caisses de l'État, tous les soins de santé, tout ce qui concerne les soins de santé, les écoles, etc. Donc il avait vraiment un projet qui plaisait. Qui plaisait pas si loin de nous, puisqu'il plaisait en France. Et donc, ça, il a été présenté comme le sauveur, d'une certaine manière, du Liban. Mais, finalement, sur le terrain, c'était pas ça qui arrivait. La paupérisation du pays était vraiment arrivée à un stade qui n'a jamais été connu, même pendant la guerre civile. Et aujourd'hui, c'est encore pire après l'agression israélienne. Donc, il y a eu toute cette période avant son assassinat où la paupérisation s'est accentuée. Et puis, il y a eu cet acte politique qui est encore, où il y a encore plein de points d'interrogation, qui est l'assassinat de Hariri et tous les assassinats qui ont suivi des journalistes plus ou moins libéraux à droite, etc., qui a vraiment retourné la situation politique. L'économie était déjà... Et donc, la situation politique a totalement été retournée, à savoir qu'on était en présence de deux camps. Un camp qui se rangeait, mais résolument, derrière les projets américains par leur position vis-à-vis de la Syrie. Donc, c'était ça, publiquement, la position qui les faisait être des alliés des États-Unis. Et un autre camp qui était mené par le Hezbollah et par Aoun par après, qui était de dire on résiste à l'impérialisme américain avant n'importe quelle autre question. C'est la question la plus importante qui nous est posée, avec évidemment la question sioniste qui est quelque chose qui en découle. Et donc, ces deux camps, ça faisait un an qu'ils s'affrontaient dans la politique interne. Et ce que la volonté des États-Unis, donc les Américains, les impérialistes, parce que les Européens étaient aussi partie prenante dans l'histoire, faisaient une pression énorme, diplomatique par, comme l'a dit Alain, par le vote de la résolution 1559, qui a été sponsorisée par la France au Conseil de sécurité, pour le désarmement du Hezbollah. Cette pression était diplomatique. Donc au départ, ils se disaient, on ne va pas envoyer Israël parce que c'était la catastrophe en 82, on ne va pas faire une agression militaire, on va essayer au Liban de placer nos pions de façon diplomatique. On a déjà des alliés sur place. Et on essaye par cette manière-là, nanana. Et donc, l'affrontement politique entre les deux camps n'a pas réussi comme les Américains le voulaient. Et Israël ne demandait qu'à attaquer le Liban, qu'à agresser le Liban pour son opinion publique et aussi pour son projet sioniste en soi. Et donc, ils ont eu le feu vert après l'échec diplomatique de pression, le feu vert des États-Unis pour désarmer, entre guillemets, le Hezbollah, ce qui a encore été un échec, ça, il faut l'avouer aussi.
Alors moi, je voulais revenir, parce qu'on l'a évoqué à plusieurs reprises, c'est quand même sur cette situation sociale excessivement dégradée qu'il peut y avoir dans toute ou partie du Liban, et peut-être faire le lien avec le côté social et ce sur quoi le Hezbollah va se développer. Alain, peut-être.
Sur la question sociale, il est évident que tout à l'heure, bon, on a bien dit que ce n'était pas des camarades le Hezbollah, on le redit. Dans la mesure où le projet de société qu'ils ont, bon, il est complètement antagonique avec nous. C'est un mouvement qui a été créé aussi avec des éléments qui sont parfaitement anticommunistes et qui ne reconnaissent pas la lutte des classes. Le Hezbollah ne reconnaît pas la lutte des classes comme étant fondement moteur de la société. Aujourd'hui, le Hezbollah, s'il parvenait au pouvoir au Liban, probablement, il continuerait à accepter le régime des communautés, le régime des clans et... ça continuerait comme avant. Par contre, c'est évident qu'ils ont joué un rôle très très important sur des questions essentielles pour la population qui sont la santé, l'éducation, l'action sociale, la prise en charge des familles des martyrs, hein, la réinsertion des combattants blessés. Ils ont tout un maillage de la population qui fait qu'ils étaient capables de répondre, eux, alors que l'État ne le pouvait pas pour des raisons qu'il faudrait... développé, hein. Il ne le peut pas parce que c'est un État relativement récent, parce qu'il ne s'est jamais construit de façon centrale comme les États occidentaux, et parce qu'il a toujours été extrêmement amoindri par ce régime des communautés qui l'empêchait de toute façon d'avoir une efficacité étatique. Mais donc, dans ce réseau d'institutions, on peut en citer quelques-unes qui sont parlantes hein, pour les auditeurs. Il y a par exemple Al-Shahid, le martyr. Alors, c'est une organisation qui prend en charge les familles des hommes tombés au combat ou tués lors des bombardements israéliens. Donc ça, c'était déjà en 82. Hein, elle a été créée, cette association-là. Elle assure, en sus de l'aide financière accordée aux veuves, sous forme de pension, la scolarisation des enfants via un institut social qui gère plusieurs écoles. Dans le domaine de la santé, des dizaines de dispensaires hein, qui sont répartis entre la banlieue sud de Beyrouth, la Beka et le sud Liban. Ils sont ouverts, bien sûr, à tout le monde, hein, aux chrétiens pauvres, aux sunnites pauvres, comme aux chiites. Ils ne font absolument pas de ségrégation à ce niveau-là. Ainsi que deux grands hôpitaux qui fonctionnent bien mieux que les hôpitaux d'État. Les soins sont gratuits, ce qui est quand même extrêmement important. Il y a aussi une autre association très importante qui s'appelle Jihad Albina, qui est ce qui veut dire l'effort de construction, et qui s'occupe en fait de la reconstruction des milliers de maisons détruites et endommagées par les bombardements israéliens. Alors ça, c'était valable la dernière fois, mais là, ils ont encore vachement de boulot devant eux. Il s'occupe également de la promotion de construction d'écoles, d'hôpitaux, de dispensaires, de centres religieux aussi, hein, faut pas le cacher. Et s'occupe également de l'approvisionnement en eau de toute la banlieue sud de Beyrouth, ce qui veut dire quand même 500 000 habitants, ainsi que les villages du sud Liban et de la Beka.
Oui. Donc, de certaines façons, là, on comprend bien justement le poids social, politique que peut avoir le Hezbollah. Seulement, ce que j'arrive pas à comprendre encore une fois, c'est qu'en 82, quand le Hezbollah se crée, émerge dans la société libanaise, il n'est pas tout seul. Il y a aussi des militants laïcs, communistes et tout ça. Et ce qui me désole, moi, de certaines façons, c'est que où sont-ils aujourd'hui? Comment se sont-ils? Ils sont fait buter pour beaucoup, mais qu'est-ce qui explique aujourd'hui que le poids du Hezbollah, organisation musulmane intégriste, pour dire vite, vous n'êtes pas d'accord, mais on peut en débattre, a réussi à se rallier à elle une bonne partie de la population, et non pas justement les laïcs qui auraient plus notre sympathie.
C'est encore une fois plus compliqué que ça. En 82, donc à l'issue de cette attaque israélienne, il ne faut pas non plus oublier qu'effectivement, il y a des luttes internes, il y a des luttes entre projets politiques qui sont différents. Et il y a eu des luttes entre communistes et islamistes, et il y a eu des luttes entre les gens d'extrême droite et communistes, entre chiites au sein même de la communauté chiite qui est la communauté la plus importante du Liban. Donc tout ça n'est pas très simple. Bon, au final, effectivement, pendant ces 20 dernières années qu'on a passées, pendant la guerre et après la guerre, au final, c'est vraiment les communistes en tant qu'organisation de parti ou toutes les organisations qui peuvent dépendre d'un parti centralisé qui en ont pâti le plus. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi, il ne faut pas oublier, et ça c'est valable pour tout le monde, il y a eu quand même la chute de l'Union soviétique. Il y a eu quand même la bipolarisation du monde qui permettait un certain soutien, qu'il soit financier, qu'il soit logistique, qu'il soit politique, à ces organisations de libération nationale qui n'existaient plus. Parce qu'on ne parle pas uniquement des communistes, parce qu'il y a aussi tous les nationalistes arabes, les bassistes, donc ceux qui suivent d'une part l'idéologie de libération de la nation arabe en général, ou alors si on veut aussi tous ceux qui suivent l'idéologie beaucoup plus particulariste de la série, tatata. Donc, mais tous ces partis-là ou ces organisations-là étaient soutenus financièrement, logistiquement, politiquement. Et il n'y a plus ce soutien-là. Donc l'explication, elle va de soi. Il y a eu un déclin assez important de ces organisations, de ces partis politiques. Maintenant, sur le terrain, au niveau des idées, c'est vrai qu'il y a la transmission. Et là, on a aussi des témoignages assez poignants, hein, des gens qui ont, je ne sais pas, ils ont notre âge, ils ont maximum une trentaine d'années, donc ils sont nés pendant la guerre. Il y a une génération avec laquelle ils n'ont pas eu de contact, donc la génération des frères un peu plus âgés, ou alors ils sont morts, ou alors ils sont exilés, ou alors ils sont totalement remis, ils ne veulent plus en parler. Et donc, il y a une transmission qui n'a pas eu lieu. Mais maintenant, aujourd'hui, depuis quelques années, et surtout depuis l'agression israélienne d'il y a un mois, il y a vraiment de nouveau quelque chose qui se passe, même s'il n'y a pas encore les moyens financiers qui sont à la hauteur des ambitions, entre guillemets, de ces organisations-là. Il y a une prise de conscience sur le terrain. On a un contact avec les jeunes communistes à Beyrouth, et en fait à Beyrouth plus spécifiquement, mais ils sont présents sur tout le Liban, qui ont travaillé pratiquement sur le terrain pendant l'agression israélienne, dans le secours populaire, dans l'aide aux déplacés, dans l'aide alimentaire aux gens qui étaient touchés, qui allaient dans le sud pour faire parvenir des vivres, etc. Et donc, rien que par ce fait-là, qu'ils ont pris cette... l'agression israélienne a aussi rassemblé des gens. Et donc, ils ont aussi pu, grâce à cette cohésion, avoir une action vraiment très pertinente sur le terrain. Et donc, maintenant, on ne dit pas qu'il n'y a rien. Il y a quelque chose qui est de nouveau en train de se mettre en place.
Moi, j'aurais rajouté, pour compléter ce que dit Wahoub, sur l'union des jeunes pour la démocratie et la liberté, qui sont des jeunes de Beyrouth. Alors, c'est un lieu complètement particulier, leur local. C'est un lieu intercommunautaire. Il y a parmi eux des chiites, des chrétiens, des sunnites. Et donc, c'est un lieu qui fait office, en fait, de rassemblement. C'est le seul lieu laïque qui n'est pas directement marqué par une communauté plus qu'une autre, dans lequel ils peuvent s'exprimer. Alors, ça veut dire qu'ils font bien sûr de la politique, mais ils font pas que ça. Ils fêtent leurs anniversaires, ils sont obligés d'en passer par là. Et ça, c'est un lieu qui est magique, parce que il y avait toujours du monde. Hein. À chaque fois qu'on y est passé, à n'importe quelle heure du matin jusqu'au soir, il y avait toujours ces jeunes qui étaient là. Et bon, c'était bougrement bien. Bon, il y en a deux qui sont morts, hélas, pendant les bombardements de l'UJDL. Nous, on a décidé de continuer à avoir des rapports avec eux parce que ça nous paraît extrêmement intéressant, leur projet, de se battre pour la laïcité, parce que ça englobe des valeurs qui sont aussi les nôtres. Hein. C'est autre chose que la jeunesse communiste en France, quoi. Ce sont des camarades qui sont porteurs d'une idéologie. De même, on a eu des contacts aussi avec le Parti communiste libanais, qui, lui, a fait un retour sur lui-même et une autocritique par rapport à l'action qu'il avait eue au cours de la première invasion israélienne. Hein, où il y a une remise en cause très importante à ce niveau-là. On a eu des contacts très intéressants aussi avec eux. Et d'ailleurs, nous sommes invités à la fête de l'humanité au nom du Parti communiste libanais, pour représenter le stand qui parlera de Georges Ibrahim Abdallah. Ce qui veut dire une avancée considérable, puisque vous savez que Georges Ibrahim Abdallah n'était pas en odeur de sainteté dans la gauche officielle, ni française, ni libanaise, pendant tout un temps.
Thank you.
Voilà, on est toujours sur Fréquence Paris Pluriel et on est toujours en train de parler du Liban, de ce qui s'est passé cet été. Puis on va en venir à parler de ce qui se passe aujourd'hui à travers la finule qui va se mettre en place et puis l'attitude de la chancellerie française et de nos camarades de la gauche et de l'extrême gauche française. Voilà le programme. Mais donc on est avec Alain du collectif pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah et Waoub de l'Union des jeunesses progressistes arabes. Et donc pendant qu'on écoutait un peu de musique, c'était le débat qui s'installait dans le studio. Jérémy, peut-être que tu peux revenir sur ce que tu disais.
Oui, parce que tout à l'heure, Alain a dit qu'on n'était pas que le Hezbollah, le Hezbollah ne reconnaissait pas la lutte des classes. Mais pour moi, il y a d'autres choses que je me reconnais pas dans le Hezbollah. Quand je vois un drapeau du Hezbollah en manif, ça me pose vraiment un vrai problème. Tout à l'heure, on a parlé des résistances libanaises dont le Hezbollah fait partie, avec les communistes, les nationalistes, etc. Mais quand, pour revenir sur ce qu'on disait hors antenne, quand une roquette arrive sur Haïfa, est-ce que tous les résistants libanais se reconnaissent ils trouvent que c'est un acte de résistance, c'est pas un acte de terrorisme. Voilà, est-ce que les communistes disent oui, on revendique, oui, parfaitement, les civils de Haïfa, c'est normal qu'ils. Voilà.
Mais c'est une question assez. Mais il est juste de la poser parce qu'elle elle amène justement le débat sur quelque chose de basique. Et si on s'entend pas là-dessus, effectivement, on va plus s'entendre pour les projets politiques dans la région. La résistance arabe en général, qu'on soit, et c'est, je partage totalement ce point de vue, et je crois que tous les communistes devraient le partager parce que c'est quelque chose qui me paraît basique. Qu'on soit que l'État d'Israël, je ne parle pas des gens, je ne parle pas de juifs, pour être clair, l'État d'Israël tel qu'il est géré est un État terroriste. C'est un État agresseur. De la façon dont il se comporte, tant vis-à-vis des populations qui vivent sur son territoire que vis-à-vis des populations qui l'entourent, c'est un État terroriste. Donc, le fait de répondre en plus, il n'a pas été agressé, on répond à une agression d'un État terroriste. Donc il me semble qu'on est en pleine configuration de ça. Enfin, c'est une simple guerre. Une guerre, il y a quelque chose qui doit être clair dans la tête de tout le monde. Il n'y a pas. Enfin, je vais prendre vraiment un exemple qui va peut-être choquer des gens. Mais un résistant à l'époque, il y a 60 ans d'ici, se posait pas spécialement cette question-là. C'est triste, mais il se battait pour la libération de son pays. C'était un résistant tout de même. On ne peut pas lui enlever cette qualité-là. Il se battait parce qu'il estimait peut-être que c'était pas l'avis des gens d'extrême droite, mais il estimait que le projet politique qu'on lui imposait, c'était pas le projet politique qu'il voulait pour les gens qui avec lesquels il vivait.
Et on le dénonçait comme terroriste sur les affiches dans la rue.
Voilà, et donc il y avait des gens qui disaient que la résistance, c'était du terrorisme à l'époque. Alors maintenant, c'est clair, c'est un camp et c'est un parti pris, mais je l'assume totalement et je pense que tous les résistants qui se disent comme tels au Liban, qu'ils soient communistes, nationalistes ou islamistes, pense la même chose. Il faut vraiment se mettre dans le contexte, vraiment se mettre là-bas. C'est pas concevable de ne pas de rester les bras croisés et d'être pacifiste et idiot quand on est attaqué systématiquement depuis des années, depuis des dizaines d'années. C'est impossible. Mais ceci étant dit, il faut vraiment, pour un peu calmer il faut vraiment se mettre dans le vécu des gens. Une résistance, elle n'est pas de nulle part. Il y a quand même des bases, il y a quand même quelque chose d'objectif qui se passe sur le terrain. Et c'est pas, il y a personne qui aime bien tuer quelqu'un, comme ça. Il y a personne, je connais très peu de gens qui ont 16 ans, qui ont spécialement envie de tuer quelqu'un, comme ça, en se levant le matin. Il y a quelque chose qui est arrivé à cette famille pour que ce gosse, à 16 ans, s'engage dans les armes. Il y a quelque chose qui est arrivé à sa famille, à son village, à sa ville, à son pays. Donc, il y a quelque chose de beaucoup plus fort que de dire simplement, c'est des terroristes, ils attaquent Haïfa. Mais non, c'est pas ça. C'est que ça dure depuis des années, c'est une guerre.
Non, mais j'ai bien compris, on ne va pas revenir dessus, mais voilà.
On n'est pas d'accord.
Non, mais voilà, je pense que... On en discutera un petit peu tout à l'heure, effectivement, parce qu'on va être pris par le temps. C'est peut-être pas pour évacuer le débat, mais il y avait quand même plein d'autres choses qu'on voulait aborder, entre autres la finule qui va être mise en place, qui est en train de se mettre en place. Après, moult, on a suivi ça cet été, moult négociations à l'ONU pour qu'il y ait des résolutions qui permettent de mettre cette force en place. Et effectivement, ça pose un certain nombre de problèmes que vous avez commencé à soulever. Et peut-être que vous pouvez approfondir un petit peu sur quels sont les enjeux de cette finule et par ailleurs, quelle relation il peut y avoir avec les États-Unis, les grands projets des États-Unis ou de l'Europe.
Alors déjà, on essaye de nous présenter le concert des nations comme étant une ode à la paix, à l'amitié entre les peuples. Et donc, cette finule, qui vient avec ses gros chars Leclerc, qui sont capables de pulvériser n'importe quel village en deux coulées gros, il serait là simplement que pour faire de la dissuasion, pour essayer de mettre de l'harmonie entre les gens. Et... Non, c'est pas ça. La résolution 1701, c'est délibérément une résolution qui prend le parti d'Israël, dès la troisième ligne, hein, dans laquelle on dit que c'est le Hezbollah qui a agressé Israël, et qu'en tant que tel... voilà quoi, cette guerre c'est un justificatif pour Israël. À partir du moment où on fait une résolution qui prend parti pour un des deux camps, on va donner donc des mandats à ces forces pour justement prendre ce parti là. Et on le voit aujourd'hui, c'est-à-dire que les choses s'accélèrent. On voit que au départ il s'agissait d'un cessez-le-feu, il s'agissait éventuellement de remettre la légitimité du pouvoir entre les mains du gouvernement libanais et de l'armée libanaise. On ne parlait pas du désarmement du Hezbollah, on ne parlait pas du désarmement des camps palestiniens. Il faut savoir quand même que la survie des Palestiniens au Liban, elle est due à quoi ? Elle est due au fait qu'ils étaient armés et qu'ils avaient des capacités dissuasives de défense. Et ça, c'est extrêmement important. Si on revient sur Sabra et Shatila, par exemple, quand la finule s'était tirée et a laissé tranquillement les forces phalangistes avançaient sous complicité des Israéliens également. On a vu ce que ça a donné, un massacre avec des milliers de morts. Donc les Palestiniens, ils ont souffert dans leur chair et dans leur sang de ces désarmements. Et donc ça serait criminel aujourd'hui que de vouloir comme ça abstraitement désarmer pour un monde meilleur dans un Liban qui serait la Suisse du Moyen-Orient. C'est complètement stupide. Ça ne tient pas debout 30 secondes aujourd'hui. Si aujourd'hui Israël ne campe pas de façon permanente dans le sud du Liban, c'est parce qu'ils ont affaire en face d'eux à des gens déterminés et armés jusqu'aux dents. Sinon, bien évidemment, ils le feraient. Aujourd'hui, on ne peut que être pour que le statu quo soit respecté et que le Hezbollah ne soit pas désarmé. C'est la seule possibilité qu'ont les populations du sud Liban de ne pas recevoir encore des bombardements ou de ne pas avoir une occupation israélienne. Ça réside là. Donc ça, c'est important. Donc la résolution 1701, déjà, donc, elle est complètement unilatérale et elle défend les intérêts de l'impérialisme. Elle est là pour continuer l'œuvre de la création d'un grand Moyen-Orient. Les Nations Unies, qu'on nous présente toujours comme quelque chose au-dessus des rapports intercapitalistes, au-dessus des rapports qui échapperaient à la politique. Ça sera une grande institution que De Gaulle appelait ce machin. Sur ce point-là, il avait raison.
C'est la première fois que je t'entends citer du De Gaulle.
Qui voudrait la paix entre les peuples. Mais bien évidemment, quand on voit que Kofi Annan, aujourd'hui, il presse comme il peut au désarmement du Hezbollah, il choisit son camp. Et je crois que quand Chirac a annoncé que que la France s'investirait dans la finule, c'est absolument scandaleux que certains partis qui se prétendent de gauche aient complètement applaudi et qu'il y ait une espèce de consensus national de toutes les forces représentées à l'Assemblée pour accepter ça. Aujourd'hui, participer à la finule, hein, que ce soit le gouvernement italien ou le gouvernement français ou d'autres, c'est véritablement participer à une œuvre contre le peuple libanais. C'est vraiment une agression contre le peuple libanais qui est en train de se perpétrer.
Oui, simplement pour juste rajouter un tout petit détail par rapport à la résolution 1701 qui a été votée après l'agression israélienne du Liban. Donc, on a dit que c'était un échec militairement. Donc, mais en fait, ce qui se passe avec cette résolution, c'est qu'il fallait couvrir cet échec militaire et que quand même les demandes israéliennes et américaines puisse figurer dans un texte clair des Nations Unies, donc qu'il ait une légitimité internationale, en disant que c'est pour la paix. Donc Israël se retire, on met tout de même les sentinelles de la liberté, je me demande pourquoi ils appellent pas ça comme ça, les sentinelles de la liberté sur le territoire libanais, mais qu'est-ce qu'elles ont comme mission ? La mission, elle n'est pas de défendre le peuple libanais. Jamais il a été dit que la mission de la FINUL était de défendre le peuple libanais contre l'agression israélienne qui est systématique et continue. Jamais aucun homme politique occidental n'a osé dire que ce qui était en jeu aujourd'hui, c'est pas le fait qu'Israël puisse prétendre à quelque chose après une défaite militaire, mais que le peuple libanais puisse prétendre à sa propre sécurité. C'est incroyable. Et même, je veux dire, c'est fou qu'on ne relève même pas ça. Il n'y a aucune notion de protection du peuple libanais. C'est même pas, on ne protège pas le peuple libanais contre l'agression israélienne. Mais qui va le protéger ? Mais alors, forcément, c'est le Hezbollah. Qui va le protéger ? L'armée, elle est sous-armée depuis 30 ans. Elle n'est pas entraînée. Elle est restée dans des casernes pendant toute la guerre civile, enfin, pendant toute la deuxième moitié de la guerre civile. Après le retrait israélien, ils ne sont plus descendus dans le sud. L'armée ne sait pas se battre. Et encore, si elle savait se battre, il y a tellement de tensions interconfessionnelles, tellement de partis qui dirigent l'État, qu'ils ne seraient même pas d'accord sur l'action que l'armée aurait à avoir. Donc le peuple libanais, il est protégé par personne. Et aujourd'hui, on ne se pose même pas cette question-là, et on dit « on désarme le Hezbollah ». Mais qu'est-ce qu'on met à la place ? Israël peut venir demain sans le Hezbollah et peut tout détruire comme elle veut. Et peut reprendre des territoires jusque je ne sais pas où, ou peut-être en accord diplomatique, on n'en sait rien. Mais de toutes les façons, ce n'est même pas ça la préoccupation des gens. Et clairement, comme le peuple palestinien, comme le peuple irakien, le peuple libanais est en train de faire les frais de ce grand projet derrière lequel les Européens se mettent comme un seul homme. Et ce n'est qu'au bénéfice des États-Unis et des Israéliens. Enfin, voilà.
Et au niveau de la politique libanaise proprement dite, au-delà de l'occupation par la FINUL, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Il va y avoir des élections, la bourgeoisie va continuer à occuper le pouvoir. Comment tu perçois un peu l'évolution ? Le Hezbollah peut remporter les élections ?
Alors là, il y a une crise très importante qui a éclaté il y a quelques jours, dans lequel le Hezbollah réclame purement et simplement la démission du gouvernement Signora, qui est considéré comme le gouvernement de la bourgeoisie et qui défend les intérêts de l'impérialisme américain. C'est-à-dire ce qui existait avant la guerre, qui avait été estompé par l'espèce d'union sacrée qu'on a vue pendant toute l'agression israélienne. Maintenant, les contradictions réelles de ce pays, elles apparaissent au grand jour, notamment par rapport aussi à la situation par rapport à la FINUL. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des fractions de la population qui acceptent cette FINUL et qui aimeraient bien, en même temps que les impérialistes, débarrassent le pays du Hezbollah, parce qu'ils pourraient faire leurs petites affaires tranquillement avec les Israéliens et construire leur Monte Carlo au Moyen-Orient. Donc, par rapport à ça, par exemple, il faut noter que le Parti communiste libanais, lui, contrairement à ce qui est dit, on nous dit que toutes les forces libanaises seraient d'accord avec la FINUL. Bah déjà, ils n'ont pas tellement le choix. Hein. Quand on a l'épée de Damoclès de l'impérialisme qui vous dit c'est ça ou sans quoi on arrive, eh ben, on prend un peu de temps, quoi, on prend un peu de recul, y compris quand on s'appelle le Hezbollah. On se donne les moyens éventuellement de se réorganiser, mais on n'accepte pas pour autant. Pour la gauche, c'est pareil. Le Parti communiste français, il ose, appuyer un Chirac qui dit qu'il va envoyer ses hommes là-bas, alors que le Parti communiste libanais, lui, est très clair. Hein, le PCL a tout de suite réagi en disant que les forces envoyées seraient des forces armées agissant sous l'étiquette des Nations Unies avec pour objectif de désarmer le Hezbollah. Le Hezbollah n'acceptera pas cela. Une force d'intervention internationale ne fera qu'aggraver la situation. Le PCL refuse catégoriquement ce genre de solution. Il faut une solution politique incluant la libération des fermes de Sheba et celle de tous les prisonniers, qui est un truc qui passe complètement à la trappe dans la résolution 1701, qui ne parle que des deux gugus israéliens qui ont été chopés, mais qui ne parle pas des centaines de prisonniers arabes et libanais en particulier qui croupissent dans les geôles sionistes.
Alors l'émission tire à sa fin. Je voulais juste aborder deux petites questions. Il y a à la fois quelle solidarité aujourd'hui avec le peuple libanais. Qu'est-ce qui se passe ? J'imagine qu'il y a une situation sociale qui est bien plus dégradée qu'elle ne l'était avant. Est-ce qu'il y a des choses qui s'organisent ? Voilà, première question, Alain. Tu as un papier sous les yeux.
Ah oui, j'ai un papier sous les yeux. Vous allez sans doute en avoir des exemplaires qui vont vous être distribués si vous allez à la fête de l'UMA ou si vous faites votre marché ce week-end. Il y a une manifestation le samedi 23 septembre place du Châtelet en soutien au peuple palestinien et libanais. Alors il y a un appel commun qui a été fait par toutes les organisations traditionnelles, dont le PC, la LCR et Tutti Quanti, et une autre coordination qui existe sur Paris qui s'appelle le Comité de soutien à la résistance des peuples du Moyen-Orient, et qui, lui, a clairement décidé de prendre parti, c'est-à-dire qu'on est résolument du côté de la résistance palestinienne et sans se poser de préoccupations métaphysiques sur les réfugiés ethniques et toutes ces choses-là. C'est-à-dire que nous, on considère qu'aujourd'hui, il faut choisir son camp par rapport à Israël. Donc on choisit le camp des Palestiniens et le camp des Libanais, et on choisit aussi de dénoncer notre impérialisme qui prend aujourd'hui parti pour le camp de l'impérialisme. Donc ça sera sous le mot d'ordre de non au blocus des peuples palestiniens et libanais, parce qu'on n'a pas eu le temps de parler de Gaza, ça mériterait une heure de plus maintenant, hein, c'est évident. Troupes françaises hors du Liban. Je rappelle quand même qu'on se bat, parce qu'il nous reste 3 minutes pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah.
C'était mon autre question.
Donc on va répondre rapidement à ces questions-là.
Voilà, alors juste rappeler que vous organisez le 6 octobre 2006 à 19h un meeting pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah, militant communiste arabe détenu en France depuis 23 ans, donc qui est proche du record du prisonnier politique, et pour la libération de tous les prisonniers palestiniens et arabes détenus dans les geôles sionistes. Et ça se passe à la Bourse du Travail de Saint-Denis, c'est métro Porte de Paris, juste à la sortie du métro Porte de Paris, avec un casting de stars, puisque vous retrouverez Henri Alleg, Georges Labika, Gilles Perrault, et de Beyrouth des interventions du mouvement syndical libanais.
Et aussi voilà. Un représentant de l'Union des jeunes démocrates libanais, dont Alain a parlé tout à l'heure, donc les jeunes progressistes communistes et communistes.
S'il arrive à passer la frontière.
S'il arrive à... Oui, c'est ça. Mais voilà, juste, je ne sais pas si je peux juste dire mots sur Georges. Donc il y a un collectif sur Paris aussi qui s'occupe de la libération de Georges Ibrahim Abdallah. Alain en a aussi parlé. Il est important que aussi cette question soit remise sur le grill, enfin dans l'actualité, parce que elle est symbolique aussi, hein. Donc c'est un prisonnier qui est détenu depuis 23 ans, mais en France, c'est pas en Israël qu'il est détenu. Donc il est représentatif de la libération du peuple palestinien, libanais et arabe en général, et c'est un militant de gauche, c'est un militant communiste qui s'est jamais renié, et c'est parce qu'il s'est jamais renié qu'il a jamais été libéré, c'est vraiment pour ça. Et il est en forme olympique, hein, c'est pas ça, je veux dire, on communique avec lui assez régulièrement. Mais bon, 23 ans quand même, pour un délit politique dans un pays démocratique, c'est quand même sympathique, surtout quand c'est pour la libération des peuples. Il fallait juste insister là-dessus.
Nous espérons vous voir à la Fête de l'Humanité, où nous tiendrons un stand le stand du Parti communiste libanais. On vous encourage vivement à venir et on pourra échanger et voir comment vous pouvez, si vous êtes intéressé par la question libanaise et surtout sur la question de la libération de Georges Abdallah. On a plein d'idées avec plein d'actions qui peuvent être faites dans les semaines qui viennent, et de prendre contact avec nous.
Voilà, d'ici là, voilà, merci beaucoup d'être venu témoigner et débattre.
Votre émission est vraiment toujours super.
Voilà, merci.